années, ça ne se faisait que à un seul endroit, à Cotignac, et puis depuis, disons, 4-5 ans, ça se faisait aussi à Montluçon, le 29 septembre. Voilà, et cette année, bon, apparemment, la liste, ça s'est répandu surtout dans les pays de langue espagnole et portugaise. Voilà, ce qui est bien. Alors, on célèbre la messe. Ça va faire maintenant, attendez que je vous dise depuis combien de temps qu'on a commencé à faire ça. Parce qu'on a commencé à avoir l'indulte canonique. Sinon, on n'avait pas le droit de célébrer avant. Quand il y avait des enfants qui étaient avortés ou bien qui étaient non nés, en fausse couche, il était interdit de célébrer la messe pour leur justification. Parce que, voilà, c'était comme ça. Donc quand on demandait la permission à Rome ou à l'évêque, c'était non. Et donc on a commencé quand même dans le diocèse de Toulon à le faire. Hein. Et avec, comment dire, c'était à cette époque-là, c'était Monseigneur Madec qui était évêque de Toulon. Et voilà. Et donc, comme lui, il revenait de Rome, il connaissait bien les gens de, je sais pas quoi, de la Rode, du tribunal, machin, truc. Ouais. Il avait obtenu la permission qu'on fasse ad experimentum.
Ouais, le truc blanc, là, avec l'enveloppe.
Ah oui, oui, oui. Comme ça, on ne verra pas ton admirable nudité. Oui, parce que c'est sûr, maintenant les gens se promènent comme ça, en bikini, dans les églises. Ça ne pose pas de problème, c'est marrant. Hein. Voilà, donc.
C'est totalement faux, c'est énorme.
Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider? On peut savoir quel est votre admirable prénom?
Patrick.
Ah, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Donc, c'est une manière très furtive, tout ça, qu'on faisait ces célébrations en Cotignac, bien cachées, que personne ne le sache, et tout ça. Et voilà. C'est un prêtre qui a été ordonné le 20 décembre 1950, qui est le père Robert, qui avait commencé ces cérémonies-là à Cotignac. C'est un oblat, un prêtre oblat régulier de la communauté des frères de Saint-Jean. On allumait des bougies, on mettait un petit prénom pour chacun des enfants qu'on connaissait. On disait « Je crois en Dieu », on faisait une grande procession de cris silencieux avec eux, entre Saint-Joseph, ça faisait quand même 6-8 kilomètres, et Sainte-Marie. Ouais, ils faisaient passer dans l'unité responsable de Marie et Joseph, et puis on chantait avec eux, on leur communiquait la lumière surnaturelle de la foi, on les revêtait de la lumière surnaturelle qui justifie, on les présentait sur l'autel. Et puis voilà, et puis on célébrait la messe pour que la messe puisse leur donner, les incorporer, les faire rentrer dans l'église militante de Jésus. Voilà, et on faisait ça comme ça, comme on aurait fait un tout petit groupe, hein, c'était vraiment... Et puis... très condamnable en plus, parce que bon, les frères de Saint-Jean qui étaient là étaient radicalement opposés à cette cérémonie. Voilà. Mais de l'aller sur l'autre, on le faisait quand même. Le père Robert était âgé, il l'a fait une année, et la deuxième année, il a dit « Moi tout seul, je ne peux pas résister à tant de tir de barrage. Et donc, on est venu chercher un ermite au fond des grottes, là-bas, dans les gorges du Verdon, qui habitait 1h30. Et quand on a vu qu'il était assez gros, le tir de barrage a été moins fort. Voilà. Et la troisième année, et ben c'est moi qui animais ces choses-là. Mais alors, c'est normal parce qu'il fallait... faut comprendre pourquoi est-ce que l'Église disait on peut pas célébrer la messe pour des enfants qui sont nés avant la naissance, parce que même saint Thomas d'Aquin, enfin on ne sait pas quand est-ce qu'il y avait un enfant ou est-ce qu'il n'y en avait pas, on ne le sait pas. Voilà, est-ce que Dieu crée l'âme crée notre âme à la nidation, par exemple, ou bien est-ce qu'il la crée quand le corps est déjà formé? Saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans la Somme de Saint Thomas, il dit quelque chose, c'est quand Dieu a pris chair dans la Vierge Marie, il s'est constitué une nature humaine. Bon, il a été enfant quand même, Jésus. Ça, c'est pas moi qui vous l'apprends, j'espère. Bon, mais avant d'être enfant, il a été dans le... Elle a été enceinte de Jésus, Marie. Voilà. Mais, donc, saint Thomas d'Aquin dit que, dès le premier instant de son incarnation, Jésus était un enfant complet. C'est-à-dire que c'était pas un embryon, c'était un enfant complet. C'est-à-dire qu'il avait, il avait non seulement jugement d'adulte, intelligence d'adulte, cœur d'adulte, etc. Mais même ses organes aussi. Son visage était adulte, déjà. Donc, l'ensemble, dès le premier instant, Jésus aurait été Jésus, quoi. Ça n'aurait pas été une cellule, puis après un petit bout embryonnaire, et puis après, vous voyez, une morula, tout ça, pas du tout. Saint Thomas d'Aquin dit non. Et il fallait que Jésus soit parfait dès le départ. Alors, c'est à quoi je lui disais toujours, mon cher saint Thomas d'Aquin, vous qui êtes le docteur principal de l'Église, eh bien, vous avez 0 sur la question sur 20. Moi, je ne vous donne pas votre premier baccalauréat en philosophie, ni en théologie. Parce que vous ne savez pas lire. Vous n'avez pas lu, par exemple, que dans la Sainte Écriture, eh bien, il est écrit que le Verbe de Dieu a assumé notre nature humaine en toute chose, excepté le péché. Si Jésus a assumé notre nature humaine en toute chose, il y a 9 mois qu'il n'aurait pas assumé, quoi. Donc, il y a un problème. Donc, si vous ne savez pas lire, c'est peut-être parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'opticien. Et donc, saint Thomas d'Aquin, effectivement, c'est peut-être pas de sa faute. C'est à cause qu'il ne savait pas lire. Et c'est normal, il avait tout dans la tête. Voilà. Alors, et c'est pour des raisons de ce genre, quoi. L'Église, elle n'avance, si vous voulez, que lorsque il y a la preuve. Donc elle ne va considérer, par exemple, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Elle a mis 1950 ans avant de dire c'est un dogme. C'est énorme, 1950 ans pour dire c'est un dogme. Les apôtres, ils le savaient bien, puisque les apôtres, ils ont assisté à son ascension. Alors quand même, on aurait pu dogmatiser ça avant. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont vu une forme qui descend de celle de Marie disparaître glorieusement dans le ciel qu'ils pouvaient proclamer le dogme de l'Assomption, vous comprenez. C'était peut-être un ange. Donc il fallait trouver précisément, à force de travail, de correspondance, de démonstration, hein, c'est vrai, de démonstration. Il fallait prouver que Marie avait été emportée dans la résurrection de la chair. Et ça, c'est un travail à faire sur la Sainte Écriture, sur la Bible. Sur la philosophie, la métaphysique aussi, hein, sur beaucoup de choses. Hein. Donc, et on a été beaucoup retardé sur la question de l'existence spirituelle des enfants, 9 mois avant la naissance, dès le départ, à cause du jansénisme. Les jansénistes, c'est un petit peu comme... Jansénius, c'est un peu comme le Calvin catholique, quoi. C'est... Jansénius, c'est... Voilà, c'est... Les jansénistes, c'est des gens qui disent, bon, vous savez, vous avez entendu parler, hors de l'Église, point de salut. Alors, ils disent, hors de l'Église catholique, vous êtes catholique, vous êtes sauvé, un peu comme les témoins de Jéhovah. Vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, mais seulement il en faut 144 000. Pas de chance, il y a quand même 700 milliards d'êtres humains. Donc 144 000 sur 700 milliards d'êtres humains, ça fait pas beaucoup qui sont sauvés. Hein. En proportion, c'est très peu. Quoi. Bon. Et alors, donc on dit bien, hors de l'Église, point de salut. Donc hors de l'Église, point de salut, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas catholique, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les catholiques, il n'y aurait pas la messe. Et que s'il n'y a pas la messe, personne n'est sauvé. C'est tout. Point barre, ça ne veut pas dire que tu n'es pas catholique, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire s'il n'y a pas la messe, s'il n'y a pas le fruit des sacrements, ben ceux qui sont sans sacrement ne peuvent pas rentrer dans le fruit des sacrements. Et le salut, c'est le fruit des sacrements. Mais qui c'est, voilà. Alors, les jansénistes disent, quand Dieu te crée, avant la naissance, hein, ça, j'étais tout à fait d'accord, c'était avant la naissance, les jansénistes. Quand Dieu te crée, eh ben, si tu as la chance d'être créé dans l'Église catholique, eh ben, t'as une chance énorme, puisque tu seras sauvé. Mais si Dieu te crée chez un hérétique, tu es perdu. Pour l'enfer éternel. C'est un peu gros, quand même. Mm-hmm. Donc ça veut dire que quand Dieu te crée, il te prédestine en te créant, il te prédestine à l'enfer. Ou il te prédestine en te créant, tu es prédestiné à aller en enfer, ou tu es prédestiné à aller au ciel. Évidemment, tout de suite, le Saint-Père a dit non. C'est impossible de dire une chose aussi belle. Les Calvins, c'est ça. Les Calvinistes, c'est ça. Les Calvinistes, c'est la prédestination, c'est pareil. D'accord. Il y a toute une portion du protestantisme qui est aussi horrible que les jansénistes.
Vous voulez être convaincu, c'est vrai la mettre, là. Allez, au revoir. Oui.
C'est très aimable à vous d'avoir téléphoné. Je veux dire, c'est très aimable à vous d'avoir téléphoné. Alors, donc, il disait, ben, si cet enfant il est prédestiné à être avorté, s'il est prédestiné à être avorté, c'est qu'il est prédestiné à ne pas être baptisé. S'il est prédestiné à ne pas être baptisé, c'est qu'il est prédestiné à la peine du dame. Et donc, ils ont inventé un truc. Quand même, il n'a pas fait beaucoup de péchés personnels. Bon, il aura une peine du dame qui ne sera pas très, très... Qui sera plus douce que le tartare. Des francs-maçons et freinés, oui. Bon. Voilà. Bon. Voilà. Alors, ils ont inventé un mot qui s'appelle les limbes. Voilà, ils vont dans les limbes, un endroit où ils souffriront comme un peu moins que les autres. Alors, à cause du jansénisme qui a imbibé, surtout la France, hein. La culture française, la spiritualité en France, c'était effrayant. Quelque part, on était janséniste. Et donc, on n'avait pas du tout le sens de la charité. C'est-à-dire, on n'avait pas du tout ce sens que si on était choisi dans le baptême, dans l'Église, pour être un membre vivant, Jésus vivant dans les sacrements de l'Église catholique, c'est parce que à ce moment-là, on avait une royauté, on avait un accès direct, immédiat, sans intermédiaire, avec toutes les âmes pures, toutes les âmes innocentes, toutes les âmes de bonne volonté, toutes les âmes ouvertes à la présence de la grâce sans qu'elles le sachent, et que je pouvais leur donner l'Eucharistie, la présence réelle, comme dit saint Thomas d'Aquin, la res Non, je ne pourrais pas leur donner le sacramentum, mais je pourrais leur donner ni la res et le sacramentum, mais je pourrais leur donner la res, c'est-à-dire la présence réelle de l'Eucharistie. Je pourrais donner, en recevant l'absolution sacramentelle, je pourrais donner l'absolution sacramentelle dans sa présence réelle, sans sacrement, à ceux qui, si je disais à vous tous, toutes les enfants de la terre, que j'aime d'un amour fou, parce que vous avez besoin d'absolution et que votre âme est entièrement pure et que vous êtes disponible à la présence de la grâce, je vous assure, je vous aime d'un amour fou et je vous aime, et cette absolution, elle est pour vous. Alors, il était absous du sacrement de l'absolution catholique. Et évidemment, si aucun catholique ne le faisait, parce qu'ils étaient tous jansénistes, ils disaient « Ah, génial, j'ai reçu l'absolution, je n'irai pas en enfer. » Il y avait des catholiques qui pensaient comme ça. Ça y est, j'ai fait un péché mortel. Donc, vite, l'absolution. Ouh, vous savez. Je suis à nouveau dans la prédestination. Mais la charité, ça ne revenait pas à l'esprit. On est catholique parce que on a ce pouvoir surnaturel, ce pouvoir spirituel, ce pouvoir physique aussi, ce pouvoir incroyable, cet accès à la fécondité de tous les enfants de Dieu, à condition bien sûr que leur liberté, leur oui originel, soit toujours ouvert, quelquefois sans qu'ils le sachent. Alors là, oui, ça fait des multitudes. L'Apocalypse dit un tiers, deux tiers. C'est quand même pas 100 000 sur 700 milliards. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, tout le monde est sauvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est vrai, il faut une grande expérience, je pense, d'une longue vie, pour constater qu'il y a beaucoup de gens, hélas, qui ne veulent pas être sauvés. Ça, c'est pas que ça les intéresse pas, c'est que ils perçoivent ça comme quelque chose de véritablement horriblement détestable. Ils haïssent Dieu, et une haine de Dieu mais viscérale, enfin je veux dire pas psychologique, vous voyez, c'est pas psychique, ce n'est pas idéologique, c'est pas c'est pas parce que leurs parents, ils étaient athées, ils sont des militants athées. Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que, je sais pas, ils savent dans leur conscience que Dieu aime les humbles, les purs, ceux qui ont une obéissance brûlante d'amour, et eux, ils ne supportent pas ça. Ils supportent pas ça. Et ils se trouvent bien profondément, je veux dire, profondément bien, en toute honnêteté, enfin dans la clarté de leur vie, que dans la haine de l'humilité, la haine profonde de la chasteté, la haine profonde de l'obéissance brûlante d'amour et de la lumière, quoi. Il y a une haine de la vérité. Enfin, c'est pas une haine, je ne supporte pas. Donc leur âme se ferme dès que la grâce eucharistique tombe sur eux. Dès que la grâce d'absolution tombe sur eux, ils se ferment, ils s'enfoncent encore plus dans le contraire. C'est quelque chose, c'est un mouvement de l'âme, ça. Alors l'Apocalypse dit un tiers, deux tiers. C'est pour ça, c'est important de rappeler ça, parce qu'il y a certaines personnes qui disent quand même tout le monde sera sauvé. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, mais par contre, les enfants, eux, lorsqu'ils ont été comme ça, avortés, il y a des enfants, par exemple, qui ont été tués, là, j'ai beaucoup de confrères prêtres qui étaient étudiants, je veux dire, qui étaient parmi les étudiants, parmi aussi les élèves de maths, de terminale première, et dans les confessions, souvent, enfin c'était pas peu fréquent, ça arrivait, ces petites filles se faisaient mettre enceinte pour avoir 500 euros. Et c'est d'accord. Donc, et l'enfant était destiné donc à être offert à Satan, quoi, dans une messe noire, dans un culte satanique. Donc ça leur valait quelque chose comme, je sais pas, 500 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc elle concevait, elle se laissait concevoir un enfant. Voilà. Et bon, l'enfant, il faut être, il y a un livre comme ça qui est sorti, qui s'appelle Rosemary's Baby, qui, où on voit donc des parents qui conservent un enfant pour le consacrer à Satan. Donc l'enfant et la mère sont en symbiose, hein, l'âme de l'enfant et l'âme de la mère sont d'accord. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est vrai, de dire qu'un enfant est d'accord avec la mère pour être consacré à Satan avant que ne se fasse l'éventration, voyez. Alors, il y a une liberté de l'enfant aussi. L'enfant est libre. C'est pas parce que on s'élève pour les enfants qu'ils sont tous, qu'ils reçoivent tous la grâce sanctifiante. Hein. Nous faisons tout notre possible pour les aimer. Nous faisons tout notre possible pour leur dire nous avons un amour fou pour vous. Donc ces enfants ne sont atteints par la grâce eucharistique qu'à la seule condition que nous ayons pour eux un amour fou pour eux. Pas un amour lointain, théorique, idéologique ou éthérique, enfin, en disant oui, je vous adopte, mais non, il faut qu'on ait un amour fou pour eux. Si j'ai un amour fou pour eux, alors ça y est. Vous voyez, ça y est. Ils peuvent ne plus avoir peur de nous. Rentrer dans notre cœur, nous pénétrer leur âme, et la lumière, du coup, ce naturel de la foi qui est en nous, leur fait un chemin. Et ce chemin leur permet de rentrer dans le baptême eucharistique, vous voyez. Mais de notre côté, la condition, c'est qu'il y ait de l'amour. Vous voyez, pas qu'il y ait une... Moi, je suis contre l'avortement, vous voyez. Dire je suis contre l'avortement, ça ne vous donne pas de l'amour pour les enfants. Après leur mort, hein. Un amour fou, on va avoir un amour fou pour eux. Enfin, j'ai connu moi, des femmes chrétiennes, pieuses, qui font l'adoration du Saint-Sacrement, qui ont eu des enfants non nés, de l'avortement, dit mon père, oui, j'ai réalisé ça il y a une quinzaine d'années, j'ai donné un prénom, j'ai célébré une messe, et voilà. On ne pouvait pas me dire comment il s'appelle, c'est. Oh, je sais pas, moi je l'ai fait une fois, c'est fini. Hein. J'ai pardon. Si je m'excuse, c'est vrai, c'est fini. Mais vous avez rien fait, hein. Je peux vous dire, vous avez rien fait. Vous avez rien fait du tout, c'est pas de la magie. C'est la messe, c'est fini. Non, là, c'est parce que il y a un lien, pas seulement un lien historique, mais un lien spirituel, un lien de lumière, un lien d'amour permanent. Alors à ce moment-là, oui, bien sûr. La personne est vivante pour moi. Ah oui, bien sûr. C'est pas, on fait pas une messe janséniste. Pas de la magie eucharistique. Hein? Pas du tout. Donc, quelque part, c'est ça qu'a expliqué le pape Benoît XVI dans sa première encyclique sur l'Eucharistie. Si on veut vraiment vivre l'Eucharistie, c'est l'amour fou qu'on a grâce après l'Eucharistie pour tous ceux qui se congénèrent dans un seul cœur eucharistique vivant. sur la terre et dans le ciel. Et à ce moment-là, la fécondité eucharistique détruit tout le mal, absout, écrase tout, libère, ouvre un chemin là où il y avait des impasses. Voilà, donc on a célébré ces messes comme ça. Et très très vite, bien sûr, les mères ont redécouvert leurs enfants, les pères, les frères, les sœurs. Les enfants se manifestaient presque systématiquement à la messe. Ils se montraient. Les mères, presque au moins une fois sur deux, voyaient leur enfant. Si c'était pas dans le car, c'était la nuit, c'était où c'était dans la cérémonie. Et puis il y a eu le ciel a coopéré, c'est évident. Alors du coup, je vous dis pas la guerre des théologiens. Alors là, une guerre sans merci. Ils ne voulaient pas de ça. Mais comme moi aussi, je suis théologien, à chaque fois que j'en avais un sous la dent, là, il dit, moi j'ai fait 40 ans de théologie, et vous? C'est souvent des petits péteux, hein. Il dit, la flûte, aïe aïe aïe, c'est Père Patrick Lisset. Allez, on s'écrase. Et puis finalement, bon, ça continue. Ça oui. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va dire quelques psaumes. Et pourquoi les anges? Pourquoi le jour des anges? Parce que Jésus, quand il parle de tout petit, c'est-à-dire, il emploie un mot, laisser venir à. Les tout petits, quand il dit les tout petits, au moment du jugement dernier, quand il dit les tout petits, quand vous l'avez fait au tout petit du plus petit d'entre les miens, ce tout petit des enfants, le mot enfant qu'il emploie là, c'est le mot qu'on emploie en grec, à la fois pour bébé et aussi pour embryon, c'est les deux, ça s'emploie pour l'un ou pour l'autre. Donc au jugement dernier, attendons, souvent c'était facile pour moi de dire, écoutez, le plus petit entre les mains, les gens ils vont arriver au ciel, en disant, ah oui, moi j'ai fait mes courses, j'ai été honnête, j'étais à genoux pour la prière, tout ça, j'ai bien confessé à chaque fois que j'ai fait un péché, merci Seigneur de m'avoir fait partie de l'Église catholique. Oui, mais enfin, attends, je m'excuse, mais... Et les tout petits, j'étais tout nu. Vous n'avez pas les sacrements, tu as pensé à moi? Tout nu, ça veut dire que vous n'avez pas le vêtement des sacrements. Le vêtement dans la Bible, c'est les sacrements. Hein. J'avais faim. Pas pensé à moi? Et j'avais soif. Et j'avais pas de maison. L'église, il parle pas d'été. Tu m'as pas fait rentrer dans l'église. Et puis j'étais bouclé par ça. Le cri d'angoisse, de mort, de syndrome abortif, tout ça. J'appartenais aux puissances des ténèbres qui m'utilisaient. Et ma libération, j'étais prisonnier. Mais quand est-ce que je t'ai vu dans une situation pareille? L'extérieur est pour toi. Ben, quand j'étais le plus petit de tous les petits. Il m'a pas vu. Donc moi, je ne t'ai jamais connu. Jugement dernier. À force de société chrétienne, on se regarde le nombril. Est-ce que je m'attache? Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que j'ai pas de problème? Attends, est-ce qu'on pourrait un petit peu s'occuper de quelqu'un d'autre que de nous? Ce serait bien. Alors les anges, eux, c'est ça l'avantage d'un ange glorieux, c'est qu'il ne se regarde jamais lui. Et Jésus dit, mes petits enfants, respectez les tout petits, parce qu'ils ont un ange qui est devant la face de Dieu. En direct. Alors, l'autre jour, je reçois un texto un petit bout de femme amusant, très pétulant. Bon. Et un petit bout de femme me dit sur son texto, bon, à propos de ça, que il y a des prêtres qui venaient, un prêtre venait de lui dire, mais non, on n'en sait rien, de toute façon. Le prêtre lui avait dit, par exemple, quand un enfant est dans le ventre de la mère, il va apprendre petit à petit à s'approcher de Dieu grâce à sa maman. Parce que c'est sa maman qui, à force de prier pendant qu'il est là, à force de lui dire, tu sais, mon petit bébé, regarde, il y a Jésus, il est là, il y a le Saint-Esprit, on va dire le credo ensemble, tout ça. Grâce à sa maman, il va apprendre petit à petit à connaître Dieu. Alors, la petite Marie, qui était là, a répondu à son prêtre, « Mais pas du tout! Vous n'avez jamais lu l'Évangile, jamais, pour apprendre ce qui est Dieu, un enfant n'avait besoin de sa maman. Vous, là, vous n'avez jamais lu l'Évangile, quoi. » Jésus dit bien, les enfants, ils ont c'est l'ange qui est face à face avec Dieu en direct. Donc c'est direct. C'est enseigné par l'ange et directement par Dieu. Et à un moment, elle donne après sa spiritualité. Alors le prêtre, tu peux aller la regarder comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle a pissé la narine, on imagine ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez fait de la théologie, ou? Non, les enfants sont enseignés. Les enfants sont directement face de Dieu, bien sûr. C'est évident, mais ils sont, Dieu les enseigne qu'ils doivent passer par l'humanité, par l'Église, pour aller dans la vision béatifique. Et donc ils attendent qu'il y ait quelques personnes sur la terre qui les aiment. C'est aussi simple que ça, les cérémonies du 29 septembre et du 28 décembre. C'est donner de l'amour et que cet amour atteigne, voilà. Alors quand même, il y a eu 700, j'ai calculé ça tout à l'heure, enfin, parce que je voyais les numéros d'immatriculation des voitures. C'était 889 sans arrêt, j'ai eu 5 fois 889. Je dis, pourquoi tout le temps 889? Vous n'avez pas remarqué que c'était 889? Je dis, ben voilà, il y a 800 milliards d'êtres humains. Création du monde, c'est un calcul que j'avais déjà fait, je pensais que c'était entre 700 et plus. Les enfants avortés, de manière mécanique, c'est surtout dans notre époque, hein, parce qu'avant on ne le faisait pas de manière mécanique, enfin, très peu. C'est à peu près 80 milliards. Et puis actuellement, il y a 6 à 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, c'est ça? On est proche de la fin. Hein. C'est ce que disaient les saints et les docteurs et la Sainte Écriture, c'est que la fin du monde arrive non pas parce que le soleil s'explose, mais le jour où le nombre est atteint. Alors là, c'est ça le chiffre, vous voyez. Et eux, ils sont les intermédiaires, ils sont les médiateurs, ils sont les intermédiaires entre nous. Nous sommes 7 à 8 milliards, très bien. Voilà, très bien. Il faut compter ça, je pense. Parce qu'il y a les âmes en transit aussi. Bon. Donc on est 7 à 8 milliards. Il y a ces 80 milliards d'enfants qui ont à peu près notre âge et qui sont la médiation avec toute chair depuis. Il y a le monde angélique qui fait l'unité dans le miracle des trois éléments. Et il y a quelque chose de très très grand de faire une prière eucharistique pour faire rentrer toute cette cohorte dans l'indivisibilité eucharistique. C'est très fort. Évidemment que c'est très fort. Parce que Jésus, Dieu, dans l'infiniment petit de la transsubstantiation eucharistique, pénètre l'indivisibilité de lumière incréée. Qu'il est. Et de là, se diffuse de manière tachyonique, ça c'est un mot très intéressant, c'est pas, que maintenant on va pouvoir employer à chaque sermon, parce que maintenant ça y est, c'est sorti depuis 3 ou 4 jours, je crois que c'est ça, c'est tachyonique donc, là on est sûr que le tachyon existe, d'accord. Voilà. Dans l'ensemble de l'univers, et dans l'ensemble de l'univers, on pénètre bien sûr dans l'au-delà, du monde spatio-temporel dans son alpha et son accomplissement, forcément, puisqu'ils sont indivisibles. Elle fait pénétrer dans. Et alors, du coup, le visage eucharistique utilise tous les éléments parcellaires de notre univers, j'allais dire à 100%, pour y mettre son visage. Mais en emportant les déterminations du corps spirituel, celui qui en attente de résurrection 800 milliards de fois, celui qui est en transformation eucharistique 7 milliards de fois, et celui qui est en période de sanctification eucharistique 70 milliards, 80 milliards de fois à chaque eucharistie. Dans le miracle des trois éléments, il y a quelque chose de très fort. L'intervention du monde angélique, vous voyez, la prise finale. C'est écrit dans ce matin, on lisait la. Enfin, c'est, pendant ça, je suis d'accord, on ne sait pas la messe, mais on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas. Mais voilà, il faut se mettre quand même dans l'intention de la messe. Donc, tant pis, pour 7h30, 8h30, bon. Mais je dis simplement. L'Église, elle a dit, voilà, s'il vous plaît, diminuez, ayez la bonté de lire le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a le passage de l'Apocalypse où on voit Saint-Michel-Archange qui apparaît, et puis qui mène un combat, et on l'a lu ensemble, cette nuit. Pour la fête de Saint-Michel-Archange, il y a... Dans ce grand combat, il y a quelque chose qui fait que il y a un enfantement pour le ciel dans la terre, et on est emporté au désert pendant un temps, encore un temps et un demi-temps. Et le dragon, fou, énorme dragon, comme ils disent en catalan, un énorme dragon, il va essayer d'avaler toute cette fécondité des eaux, des torrents d'eau, tsunami d'eau, quoi. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire, les eaux, hein? Bon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche pas. Derrière la femme qui s'enfuit au désert, un temps et un demi-temps. Pourquoi ça marche pas? Parce que la terre s'ouvre et avale les eaux du dragon. Ça, c'est l'indivisibilité. C'est l'indivisibilité du corps spirituel. Quand c'est bon, pourquoi bon, non, il faut capter ça tout de suite. Il faut capter ça tout de suite. Immédiatement, parce qu'on n'a pas une seconde à perdre, évidemment. Bon, donc, voilà. Ils ont dit à la télé, ça y est, maintenant on en est sûr, une très grosse partie de la matière qui circule dans notre univers va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, l'évolutionnisme a dégagé, Big Bang a dégagé, Einstein a dégagé, tout ça, ça tombe à la flotte. Tout. C'est ce que j'ai entendu à la télé. Bon, pourtant, je ne suis pas supposé boire tout ce qu'ils disent à la télé. Effectivement, ça trouve quoi pour aller rapidement? Si la grosse partie de la matière élémentaire va plus vite que la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'avant qu'il y ait du temps et de l'espace, il y a la matière. Parce qu'Einstein disait que c'était impossible. Et la Bible dit au contraire, dans le Bereshit, il y a le corps. Le Verbe de Dieu, lorsqu'il va créer dans le Bereshit, parce que rien n'a été créé que dans le principe du Verbe de Dieu, la création est attribuée au Verbe de Dieu dans le principe, dans le Bereshit, hein, dans la sainteté, dans sa grâce capitale, dans la grâce messianique, dans sa présence, dans son corps, et dans son corps mystique, dans son temple, enfin. Il y a les sept qui sont présents dans le Bereshit, d'après ce que disait Moïse. Et donc, nous, on le sait que le Verbe de Dieu épouse, si je puis dire, est déjà dans une union hypostatique. Il a déjà épousé quelque chose qui relève de la matière, avant que la matière ne se répande dans le temps et l'espace. Et une fois qu'il a pris contact comme sagesse créatrice, d'épouser de l'époux, dans une grâce d'amour, et de sainteté originelle, et il a donné à cette matière primordiale de se répandre plus lentement, si je puis dire. Plus lentement, ça veut dire l'espace et le temps sont créés. C'est génial. Ça veut dire qu'à chaque fois s'élève le cœur investi, c'est infiniment petit de la matière, hein, saisit l'indivisibilité de Dieu dans son acte créateur originel avant la création du monde, et le ressaisit dans l'accomplissement, dans l'au-delà, tous les temps et tous les lieux, après quand il n'y aura plus de temps et plus de lieux. Mais il n'y aura plus de temps. Fait le lien entre les deux. Et l'enveloppant, contemplatif, admiratif de tout ça, c'est le monde angélique glorieux. Voilà. Donc nous, on s'inscrit en sandwich entre les deux, et ouf, le miracle des trois éléments se réalise. Alors là, donc c'est absolument génial. Il me dit, mon père, moi, je veux bien, mais c'est quand même compliqué pour moi de comprendre ça. C'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué. Parce que quand Dieu m'a créé, il m'a saisi avec un poids dans le corps originel, un poids d'intériorité de matière, d'intériorité corporelle, pas seulement vivante, mais aussi métaphysique. Et donc j'ai assisté à cette hypostase du Verbe de Dieu dans la matière primordiale. Et donc quelque part, la féminité de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité à un support hypostatique dans le corps et la matière. Sinon, la condition masculine sera la condition la plus malheureuse de notre univers. Parce qu'il n'y aura aucune possibilité de s'épanouir dans l'éternité, dans une sponsorité incréée et glorieuse. Mesdames, vous n'êtes pas les seuls à être destinés à une gloire totale. Les hommes aussi. Pas les PD, mais les hommes normaux. On va essayer de comprendre. Pas seulement comprendre, on va essayer d'agir, d'être l'acte de tout ça. D'être l'actuation de tout ça. Hein?